débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour, c'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission. Francis Laloupo, comme vous le savez, est en vacances et il nous retrouvera la semaine prochaine. Déconfinement progressif dans plusieurs pays africains, décision prématurée ou au contraire réaliste, appropriée, l'assouplissement des restrictions imposées un peu partout sur le continent au début de la pandémie inquiète certains, alors que d'autres estiment qu'il était temps, après des semaines de blocage, de relancer l'économie dominée par les classes les plus pauvres qui ne bénéficient d'aucune protection sociale, d'autres sont plus sceptiques. Les pays qui ont fait le choix de la reprise pour certains, quasi normale des activités, vont-ils ou non le regretter? Les risques de catastrophes sanitaires sont-ils réels? Et si c'est le cas, comment les éviter? Nous en parlerons dans cette émission. Au Bénin, le harcèlement sexuel et d'autres humiliations que subiraient des femmes journalistes dans des médias béninois sont-ils fondés? Deux consoeurs ont décidé en tout cas de lever la voix pour parler d'un sujet qui dérange, embarrasse. Elles ont manifestement bénéficié de l'écoute du président Patrice Talon qui a reçu l'une d'elles. Les femmes sont considérées comme des objets sexuels, a écrit une des deux femmes. En évoquant ces pratiques qu'elles disent avoir subies, ont-elles peut-être ouvert une boîte de Pandore? Que va-t-il ou devrait-il se passer après? Nous entendrons nos invités. Dernier sujet, c'est le Mali, où l'on redoute une grave crise post-électorale, si ce n'est déjà le cas. Le climat est tendu. Après les législatives controversées de mars et d'avril dernier, l'opposition et une partie de la société civile questionnent des résultats annoncés par la Cour constitutionnelle dans certaines localités, notamment dans la capitale Bamako ou Sikasso, où des manifestations ont suivi la proclamation le 30 avril dernier des résultats définitifs. Notre invité cette semaine est Rémi Fulgence Nandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour à vous, madame, et bonjour à vos auditeurs.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Petite note biographique de vous, monsieur le ministre. Vous êtes né en 1968 à Bobo-Dioulasso. Et j'en ai d'ailleurs profité pour faire quelques recherches sur le nom de votre lieu de naissance, monsieur le ministre. Alors, Bobo-Dioulasso, il paraît que cela signifie littéralement, en français, la maison des Bobo-Diola. C'est bien cela?
Oui, c'est exactement ça. La maison des Djoula et des Bobo, il y a une ethnie Bobo, il y a une ethnie qu'on appelle Bobo Djoula, mais surtout, ça a été pendant longtemps un carrefour commercial très fort. Et c'est sur la route de Sikasso, c'est sur la route de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça a été pendant des années, jusqu'à la période récente des années 80, un fort lieu du commerce international.
Je savais que vous auriez beaucoup de choses à dire sur ce sujet, monsieur le ministre, puisque vous êtes historien de formation. J'ajoute que vous êtes marié, père de deux enfants. Vous avez suivi plusieurs formations dans le domaine des médias, dont celle de management des télévisions en Afrique ou encore de confection des grilles de programmes d'une télévision et même en technique d'animation radio à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ex-CFPI de Ouagadougou. Vous avez été promoteur de la télévision Burkina Info et vous avez également créé en juin 2013 la société Ansak Sal, dont vous êtes actionnaire majoritaire. Vous avez également été journaliste, présentateur, puis rédacteur en chef, directeur des programmes et directeur adjoint de la télévision Canal 3. Et depuis 2016, vous êtes officier de l'Ordre national du Burkina Faso. Et je le rappelle, donc vous êtes le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Deux journalistes sont avec nous. Il s'agit de Zakiatou Latundi, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Bonjour Zakiatou.
Bonjour.
Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'Hebdo, la Nouvelle Tribune au Mali. Vous êtes en ligne de Bamako. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Bienvenue à tous et nous allons commencer avec notre premier sujet du Cameroun au Rwanda en passant par l'Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire. Les mesures de confinement ont été allégés pour le bonheur de certains et au grand regret des autres. Au Burkina Faso, même si funérailles, baptêmes et autres rassemblements restent interdits, et les restaurants, maquis et débits de boissons toujours fermés, tout comme les frontières terrestres et aériennes, les lieux de culte pourront rouvrir dès ce dimanche 10 mai. Les vols internes vont également reprendre. Monsieur le ministre Fulgence Dandinou, le gouvernement, à travers vous, soutient que la relance de l'économie et la facilitation de la reprise des cours pour les classes d'examen ce lundi 11 mai et le 25 mai pour les autres classes justifie cet allègement, cet assouplissement du confinement. Alors que répondez-vous à celles et ceux de vos compatriotes qui expriment des inquiétudes fortes et qui affirment, eux, que la décision du gouvernement est tout simplement prématurée et irresponsable?
Je voudrais vous remercier et vous dire que il n'y a pas que la question de l'école qui est le fil conducteur de ces mesures-là. Il y a un travail qui s'est fait avec notamment les communautés religieuses dès le départ. Et il faut vous rappeler qu'à la différence de beaucoup de pays, l'État burkinabé n'a pas interdit les lieux de culte. Ce sont les communautés religieuses qui ont décidé, au regard de la pandémie, de le faire. Il en est de même pour ce qui est des marchés. Ce sont les associations des fêtes et des marchés qui ont, au regard de la situation et à l'appel du chef d'État, se sont concertés. Donc les processus de retour à la normale sont également mis en œuvre en discussion avec ces partenaires-là, avec un élément essentiel qui est celui du respect des mesures barrières et la question notamment du port obligatoire du masque.
Pardonnez-moi, monsieur le ministre, juste avant de poursuivre votre explication, cela signifie que le gouvernement n'avait pas le courage de décréter la fermeture des marchés et des lieux de culte, et qu'il a fallu que ce soit les...
Ce n'est pas une question de courage, c'est une façon de procéder qui a toujours été la nôtre, aussi bien au niveau du dialogue politique, sur des questions comme le maintien ou non des élections aux dates indiquées, et il est nécessaire d'avoir un consensus, parce que lorsque vous allez dans une situation de blocage sur des questions qui sont des questions aussi sensibles que celles-là, avec parfois une population qui peut se fanatiser très rapidement, s'il n'y a pas l'adhésion des maximums des acteurs, vous risquez, au lieu d'avoir une solution qui est acceptée par tout le monde, d'avoir une solution qui est clivante et qui pose des problèmes à l'ensemble des Burkinabés par les répercussions qu'elles peuvent avoir au niveau notamment de l'ordre public et au niveau également de la gestion du vivre ensemble. Donc il faut prendre ces aspects-là en charge et il ne faut pas non plus estimer que les États ne pouvons avoir un policier ou un gendarme derrière chaque personne pour l'obliger à appliquer des mesures. D'où l'intérêt justement d'avoir la participation des acteurs dès le départ afin de ne pas fausser et biaiser l'application des mesures.
Donc je crois ces acteurs ont décidé aujourd'hui d'eux-mêmes du déconfinement progressif.
Il y a eu depuis, quand on suit la scène politique burkinabé, nous avons maintenant, il y a quasiment 3 semaines de cela, poser les bases de cette sortie des mesures de restriction. Je ne parle pas de déconfinement parce que nous n'avons jamais été confinés.
Absolument.
Il y a des villes qui ont été mises en quarantaine et dans ces villes,
on peut parler des mesures de restriction.
Voilà, il y a eu des mesures de restriction de liberté, avec notamment le fait que une ville qui avait un cas positif Covid était immédiatement mise en quarantaine. Et au final, donc, ces mesures-là ont porté un fruit. Au regard donc de l'expression de la situation par les services sanitaires, nous avons donc voulu retourner à une situation de base qui était un État qui fonctionne avec une maladie, certes, qui est présente, mais où nous travaillons à limiter les risques. Parce qu'il faut être bien conscient que nous ne pouvons pas fermer nos États pendant 6 ou 7 mois, nous n'avons pas les moyens. Et aujourd'hui, en l'état actuel de la recherche et du traitement du Covid, on peut dire, sur le traitement, nous avons avancé avec un certain nombre de propositions cliniques qui sont mises en œuvre, et sur le reste, nous devons apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, c'est repartir à la normale, lentement, sûrement, en essayant de réduire au maximum les risques de contagion, mais en permettant à nos États de ne pas être asphyxiés tant au niveau social qu'au niveau économique.
Monsieur le ministre Dandinou, vous faites ces déclarations. Le gouvernement burkinabé décide donc de la levée partielle des mesures de restriction au moment où l'OMS, son bureau Afrique tout au moins, publie un communiqué, c'était jeudi, en affirmant que, d'après une étude qu'elle a menée, 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir et près de 44 millions d'autres pourraient être infectées au cours de la première année si les mesures de confinement échouent. Que dites-vous de cette position de l'OMS plutôt inquiète?
je ne commande pas le travail des spécialistes de la santé au niveau mondial. Je fais le constat que nous avons, au niveau du Burkina Faso, fait des projections. Ces projections-là nous proposent au seuil maximal de contamination 7000 cas pour une population d'à peu près 5 millions de personnes qui auraient été touchées plus ou moins par la maladie. Et nous avons aujourd'hui un peu autour de 6600 personnes qui ont été testées positives, même s'il est vrai que ces tests-là...
762 cas au vendredi, voilà. au vendredi 8 mai et 48 décès.
Absolument. Et au regard de cette réalité-là, et au regard également de la baisse sensible que nous avons observée avec justement un pic qui a été défini par les spécialistes il y a à peu près 2 semaines de cela, le gouvernement a décidé d'aller dans une situation qui permette à l'activité économique et sociale de se remettre en place, qui permette aux écoles de recommencer à travailler, mais qui met également en avant un certain nombre d'éléments essentiels.
Donc, vous faites fi des craintes de l'OMS et vous affirmez que le pire est derrière le Burkina Faso et que dans l'avenir, on ne va pas assister à une situation plus dramatique.
Si les mesures que nous avons mises en place ne sont pas respectées, il y a des risques. C'est pour ça que la participation des acteurs est très importante. Nous avons fait un choix qui est un choix calculé. Il y a un risque évident, mais nous avons regardé le risque et nous avons pris les mesures qui vont avec. D'où la nécessité d'avoir une adhésion des acteurs sur ces mesures-là, parce que réellement, nous ne pouvons pas maintenir nos États dans une limitation des activités et des libertés. Ça fait quasiment, pour le Burkina, 2 mois qu'on est dans cet État-là. Pour un certain nombre d'acteurs au niveau économique qui vivent au quotidien des activités, il y avait nécessité à reprendre, parce que si on ne le faisait pas, nous allons également trouver une situation où, de toute façon, les populations allaient le faire. Et vous allez créer un conflit très fort, parce que entre manger, mourir, et espérer se soigner de Covid, les populations feront le choix de manger, de chercher à se nourrir et ensuite de regarder comment elles vont gérer cette maladie.
D'autant plus que l'économie est fortement basée sur l'informel.
Absolument, madame. Oui.
Monsieur le ministre, mais si au bout de quelques semaines, la situation empirait avec les chiffres de contamination plus élevés, qu'est-ce qui se passerait?
Le Premier ministre, son excellence, monsieur Marie Dabiré a été clair sur cette question. Il a dit dans une intervention télévisée il y a 2 jours de cela, si malgré le fait que nous demandons aux populations d'adhérer aux mesures et que nous avons un rebond, le gouvernement reviendrait de façon radicale sur les mesures prises. Parce que nous avons constaté effectivement que la mise en quarantaine des villes, une douzaine au Burkina, le couvre-feu et un certain nombre de mesures ont permis justement de réguler un tant soit peu l'épidémie au niveau de notre pays. Ce qui nous a donné des chiffres excellents qui ont permis notamment d'aller vers cette levée des mesures. Mais le Premier ministre a été clair sur cette question-là. Si jamais au regard de l'évolution des tests et du taux de personnes testées positives, nous avons l'impression que le rebond était là, les mesures de remise en quarantaine, les mesures relativement strictes de limitation des libertés et des activités seront à nouveau prises.
Monsieur le ministre, on reviendra à vous tout à l'heure pour parler un peu du traitement, puisque vous semblez satisfait, en tout cas, de la prise en charge, de la manière dont cette pandémie est gérée dans votre pays, avec les résultats que vous venez de nous indiquer. Le temps d'écouter Zakiatou. Zakiatou, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Le Bénin va aussi amorcer dès lundi, on va dire, une levée partielle des mesures de restriction. Est-ce que vous êtes plutôt dans la crainte, comme le relève l'OMS, ou plutôt dans l'optimisme, comme on vient de l'entendre avec notre invité, le ministre porte-parole du gouvernement du Burkina?
Alors, au Bénin, on reste vraiment dans l'optimisme parce que, vous savez, avec cette crise-là, c'est une première, tout est entièrement au ralenti. Et ça pose un véritable problème pour les différentes activités des uns et des autres. Déjà qu'arriver à joindre les deux bouts au quotidien n'est pas toujours facile pour les populations. Mais la crainte est aussi là parce que depuis quelques jours, le Bénin grimpe vraiment au niveau des chiffres par rapport au nombre de personnes dépistées positives, puisque le pays a enclenché un dépistage de masse, toujours dans le processus d'allègement des mesures de déconfinement. Et aujourd'hui, par exemple, nous sommes déjà à 242 cas de personnes touchées. Et on se demande si alléger les mesures de déconfinement ne poserait pas davantage de problèmes
Donc, pour vous, vous pensez que c'est un peu trop tôt, Zakiatou?
Mais un peu trop tôt, oui, on peut bien le dire comme ça. Puisque pendant longtemps, on a assisté à une situation assez stable. Et c'est cette dernière semaine que les chiffres vraiment montent. Si c'est aujourd'hui où nous sommes à 242 cas, qu'on doit lever les mesures barrières, les mesures de déconfinement, parce que les mesures barrières, la socialisation continue, le port de masque est obligatoire. Le cordon sanitaire que le Bénin a mis en place sera également levé. Donc, progressivement, on est en train de lever ces mesures-là. Et ça pose un déjà problème. Donc, je crois que,
merci,
en général, dans la population, tout le monde a cette crainte-là. Hein.
D'accord. Et vous, Ibrahim, qu'en est-il du Mali et... Avez-vous également les mêmes craintes que Zakiatou?
Oui, bon, aujourd'hui au Mali, on ne parle pas pour l'instant de confinement. Les réalités n'étant pas les mêmes, on ne parle pas de confinement au Mali pour l'instant. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est la sensibilisation, le respect des mesures barrières. Bon, on suit quand même la tendance au niveau continental et au niveau mondial.
Mais quelle est votre opinion sur cette tendance observée ces derniers jours de réduire les mesures de restriction qui ont été mises en place par les différents États?
Moi, je pense que ça dépend des réalités socio-économiques de chaque pays. Aujourd'hui, vu la nature de nos économies, moi, je pense que c'est peut-être les autorités qui ont pris ces mesures-là. En tout cas, ils ont fait toutes les analyses possibles d'abord pour voir que c'est bénéfique pour les populations, c'est bénéfique pour l'État, raison pour laquelle, en tout cas, les différentes autorités ont décidé d'aller dans ce sens-là.
Merci.
Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, quand même, le confinement, c'est très difficile, vu même nos coutumes, nos traditions, c'est très difficile. Mais aujourd'hui,
notre vie sociale.
Oui. Donc, merci. Je pense qu'avec toutes les mesures barrières, en tout cas, observées, et vu même Le taux de prévalence en Afrique, moi je pense qu'il n'a pas lieu de s'alarmer.
Merci beaucoup, Ibrahim. Il me semble que vous avez mis le haut-parleur, me fait observer Abdou Diop qui est à la mise en onde, donc si vous pouvez enlever votre haut-parleur. Monsieur le ministre, encore quelques minutes hein, pour parler de ces mesures hein, d'allègement de chez vous. Quand on écoute les confrères, on a l'impression que cette mesure a été dictée par la réalité économique plutôt que par les résultats sanitaires observés. C'est les résultats sanitaires recueillis par les services spécialisés.
Non, je pense qu'il ne faut pas mettre le curseur seulement sur ces aspects. Les États, les chefs d'État, les responsables politiques et administratifs de nos États sont quand même des personnes qui ont conscience des enjeux de santé publique. Vous avez dit au Burkina, nous avons eu 736 cas confirmés et nous avons soigné 562 personnes. Donc il y a quand même un effort qui est fait. Il y a eu un moment donné où nous étions au maximum à 5 cas par semaine, alors que nous avions augmenté le nombre de tests. Donc il y a quand même un travail qui a été fait. Et chaque fois que nous avons pris une décision, c'est grâce notamment à l'éclairage des scientifiques du monde médical qui nous a dit « voilà ce qu'il faut ». Si vous voulez faire ça, voilà ce que nous mettons en face comme obligation. Et c'est pour ça, le 27 avril dernier, nous avons déclaré le port obligatoire du masque avec une période, ou du cache-nez, avec une période de sensibilisation. Et à partir de la semaine qui commence donc le 10, les contrôles, puisque la reprise d'un certain nombre d'activités également se fait en parallèle, les contrôles seront plus accentués pour que les Burkinabés rentrent dans cette logique du respect des mesures barrières et du port du cache-nez ou du masque obligatoire.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha. Le débat.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, Régis Fulgence Dandinou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, est notre grand témoin cette semaine. Deux journalistes sont avec nous, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'Hebdo, La Nouvelle Tribune du Mali, en ligne de Bamako et en ligne de Cotonou au Bénin, Zakiatou Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet bbcafrique.com et africaradio.com et partager vos commentaires avec nous sur la page Facebook de l'émission, l'adresse Le Débat BBC Afrique, Africa Radio. Monsieur le ministre, on revient à vous tout à l'heure, je le disais, pour parler un peu du traitement. Vous êtes content des résultats qui sont observés dans la prise en charge du COVID-19. Quel est le protocole de traitement utilisé jusqu'à présent?
Non, je pense que c'est un protocole qui est bâti autour de la chloroquine, comme dans beaucoup de pays. Il y a eu des essais cliniques qui ont été engagés par sous la houlette des autorités de régulation au niveau de l'éthique médicale. Il y a certains processus qui sont en cours, mais le gouvernement, au regard des efforts qui avaient été faits, a demandé à ce que le ministre de la Santé prenne un arrêté pour mettre en œuvre un protocole basé essentiellement sur la chloroquine. Résultat, donc, nous avons aujourd'hui plus de 560 personnes qui sont déclarées guéries suite à ces traitements-là. Et il y a donc, sur ce point-là, une certaine satisfaction. Il faut notamment expliquer que nous avons aussi un taux de mortalité qui est de 40, autour de 48, si je me trompe.
C'est 48 morts au 8 mai.
Effectivement, qui pose un problème, notamment dans la prise en charge des personnes à risque, notamment tout ce qui est pathologie liée au diabète, à l'hypertension, au dialysé, etc. Et donc, à ce niveau-là, il y a, depuis le 30 avril, un nouveau processus qui est en cours, avec un dépistage quasi systématique de ces personnes lorsqu'elles arrivent en consultation, mais également avec une recherche des cas, c'est-à-dire donc systématiser le test des personnes contact, systématiser tout ce qui est suspect, afin justement de nous donner cette possibilité-là d'avoir une reprise qui est plus encadrée. Et également un confinement des personnes qui arrivent de l'étranger ou des personnes qui sont des personnes contact, un confinement beaucoup plus strict dans des lieux choisis, hôteliers, ou pour les y contraignent à y rester, afin justement que durant toute la période, ces personnes-là soient sous le contrôle des services de santé.
Monsieur le ministre, parlant toujours de traitement, vous dites que c'est la chloroquine qui permet d'obtenir les résultats que vous évoquez. À un moment, le gouvernement burkinabé semblait être sur la piste d'un médicament ou bien d'un produit proposé par un chercheur béninois, la vipirine. Aujourd'hui, on parlait aussi également de COVID Organics Madagascar, qui fait l'objet de controverses. On parle aussi d'un traitement proposé par l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Que pensez-vous de toutes ces solutions, ces propositions venues d'Afrique pour la prise en charge des malades de COVID-19?
Sur la question de la vipirine, le Burkina n'a pas renoncé. Il y a donc des essais qui sont entre un essai clinique qui est en cours. Ils ont des phases de mise en œuvre et ensuite ils nous donneront les résultats. En ce qui concerne les questions de la médecine traditionnelle, les tradis praticiens du Burkina ont proposé aux...
Excusez-moi, monsieur le ministre, pour la vipirine, il semblait à un moment donné que le comité d'éthique n'avait pas donné son feu vert pour engager les tests sur la vipirine. Vous dites qu'il y a des tests en cours.
Non, c'est-à-dire qu'il y a un processus clinique qui est en cours pour valider le protocole. Il y a un protocole qui doit être validé afin que les tests cliniques soient mis en œuvre. Il y a un travail qui est fait, ça n'a pas été rejeté, de la même façon que d'autres produits traditionnels de la médecine locale ont été également inscrits afin d'être pris en charge.
Qu'en est-il du COVID Organics Madagascar? Certains pays en ont reçu des échantillons, d'autres ont passé la commande. Quelle est votre position?
Sur le Covid de Madagascar, je pense que le client du président de Madagascar en a offert un certain nombre au président du FASO, qu'il a transmis donc aux services de santé qui vont, si nécessaire, mettre les études en place. Mais nous avons aujourd'hui, y compris dans notre pharmacopée traditionnelle, beaucoup de possibilités. On est dans un espace où, si nous ne regardons pas nos réalités, nous allons nous fourvoyer. Dans tous les pays africains, les gens, quand ils sont malades, utilisent la médecine traditionnelle pour se soigner. Il y a nécessité de mettre ça dans un processus beaucoup plus scientifique afin que les posologies puissent être universalisées et distribuées à tout le monde. Mais c'est une utopie et c'est vraiment se leurrer de penser que tous les Burkinabés qui sont malades, qui pensent avoir eu le Covid, COVID se sont traités par le protocole donné par les organes de santé. Ce n'est pas vrai. On connaît notre
Afrique. Mais que pensez-vous Oui, vous décrivez là la réalité des pays africains, mais que pensez-vous de la posture de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur ce COVID organique notamment? Ou d'autres propositions
de... Ce n'est pas sur le Covid organique. Je pense que tous les scientifiques, tous les médecins du monde souhaitent que lorsqu'on a un produit qui est censé être affecté au traitement, il faut qu'il corresponde à des éléments de vérification. Et ça, c'est normal. Donc, à nos États de travailler afin que ce que nous avons comme richesse au niveau de nos pharmacopées et de la production traditionnelle puisse être valorisé. Mais je dis, cela étant, il y a la réalité de nos pays. L'OMS est dans son droit d'attirer l'attention sur la nécessité que ce soit dans un canal scientifique. Et à nous de travailler à ce que ces éléments-là soient valorisés. C'est un fait. N'oublions pas que la majorité des produits qui traitent aujourd'hui un certain nombre de maladies chroniques dans nos pays sont quand même continuellement sortis de l'espace dans lequel nous sommes. Tout ce qui traite le palud, toutes les évolutions qu'on a, viennent quand même de nos
des plantes africaines. Voilà. Mais, monsieur le ministre, il nous reste à peine 2 minutes pour ce sujet et je souhaite vous poser 2 dernières questions avec des réponses brèves, s'il vous plaît. Où en est aujourd'hui la polémique autour de la mort de l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, la deuxième vice-présidente? Et son parti a demandé la démission de la ministre de la Santé. Quelle est la réponse du président Roch-Marc-Christian Kaboré sur cette demande? Et deuxièmement, est-ce que l'élection présidentielle d'octobre prochain va se tenir ou sera-t-elle reportée en raison de la pandémie?
Pour la première question, le gouvernement a demandé des enquêtes approfondies sur cette question-là et nous attendons les résultats. Sur la deuxième, je pense que nous avons eu un dialogue politique il y a quelques mois de cela qui a défini les conditions des élections. Les acteurs politiques sont retrouvés encore il y a quelques jours de cela, majorité et opposition, et ils ont maintenu les dates, à tel point que depuis aujourd'hui, là, il y a une reprise de l'enrôlement au titre
de le président de la commission électorale a rendu visite aux autorités administratives du Centre-Est, par exemple, pour les préparatifs relatifs au lancement de l'enrôlement biométrique des électeurs.
Donc, je crois que, sauf que les acteurs politiques se retrouvent encore pour changer la donne, parce que nous le faisons dans un cadre extrêmement consensuel, tout le monde a maintenu le 22 novembre élection présidentielle et élection législative. Sur cette question, il y a l'unanimité de la classe politique et aux acteurs techniques, CENI, administration territoriale, de travailler afin que cela puisse se faire dans le respect, bien sûr, de la situation sanitaire aujourd'hui. Et si jamais il y avait un cas de force majeure, alors c'est ces mêmes acteurs-là qui devraient se retrouver pour décider de la suite à donner.
Merci, M. Feu Dandjinou.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et l'émission continue avec notre invité Rémi Fulgence Ndandjinou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, et également avec nos 2 journalistes, Zakiatou Latundji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, et Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune au Mali. Il est en ligne de Bamako. Écoutez et ou réécoutez cette émission sur bbcafrique.com et africaradio.com et venez nous dire ce que vous en pensez sur la page Facebook, le débat BBC Afrique, Africa Radio. Et nous allons poursuivre notre deuxième sujet, c'est avec le Bénin, les 2 journalistes qui ont décidé de lever le voile sur un sujet très souvent tabou. Je veux parler celui de harcèlement sexuel dans le milieu professionnel et dans les médias en particulier. Se sont-elles concertées pour agir? Leurs messages livrés respectivement le 1er mai, fête du travail, et le 3 mai, journée de célébration de la liberté de la presse, a fait grand bruit. Et en s'invitant dans le débat, le président Patrice Talon a sans doute donné de l'épaisseur à cette question. Précision avec Ferdinand Gogoua de BBC Afrique.
Angela Gbeidja et Priscille Kpombeme, 2 femmes journalistes, ont décidé de se livrer à bien des égards à une sorte de MeToo à la béninoise. Voici ce qu'a écrit Angela Gbeidja sur sa page Facebook.
Ça m'a rongé toute la journée, puis j'ai décidé de mettre les pieds dans les plats. Le harcèlement sexuel en milieu de travail, même à mon âge, a encore droit de citer, avec des humiliations de tout genre, y compris la baisse de l'estime de soi. Et ça, du plus haut vers les petits chefs de bas étage que sont les rédacteurs en chef et sous-chef.
Dans une vidéo, Priscille Kpombeme a elle aussi détaillé les différents abus qu'elle a subis dans sa carrière. Selon elle, les femmes sont considérées comme des objets sexuels au sein de certains médias béninois. Aujourd'hui au chômage, elle estime que sa situation serait liée à son refus de céder aux avances des hommes. L'affaire a pris une autre tournure avec la rencontre entre le président béninois et les responsables de la télévision nationale béninoise ORTB, ainsi que la première lanceuse d'alerte, Angela Kweija, de la télévision nationale ORTB. Je me suis intéressé au sujet, convaincu que de nombreuses femmes béninoises, dans le cadre de leur travail, peuvent être sujettes à ces pratiques répréhensibles, a déclaré le président Patrice Talon. La direction générale de l'ORTB dit n'avoir reçu aucune plainte portant sur harcèlement moral, sexuel ou viol sur un personnel féminin.
Alors, Zakiatou, je commence évidemment par vous, pas seulement parce que vous êtes femme, mais parce que vous êtes au Bénin et aussi présidente de la corporation. Quelle est la dernière actualité sur ce sujet et est-ce qu'au sein du syndicat, vous avez déjà eu à être contactée ou sollicitée par des femmes journalistes pour ces questions?
Alors, sur cette question, honnêtement, le syndicat n'a jamais été officiellement saisi pour des cas de harcèlement ou de viol en milieu du travail. Mais vous comprenez aussi pourquoi. Parce que nous sommes, malheureusement, nous avons hérité d'une éducation et les questions relatives à la sexualité sont assez tabou. Et vraiment, c'est rare qu'on en arrive à entendre des femmes accepter de témoigner à visage découvert sur des situations du genre. Mais, un peu comme tout le monde d'ailleurs, l'Union a été informée par le biais des réseaux sociaux, par le canal des réseaux sociaux, de cette dénonciation de cas de harcèlement sexuel dans certaines entreprises de très au Bénin. Et ce que nous avons fait...
Allez-y, Zakiatou.
Alors, notre réaction a été déjà d'essayer de nous rapprocher des femmes qui ont parlé, des femmes des médias qui ont parlé. Et ensuite, l'Union a sorti un communiqué pour dénoncer la chose, pour condamner le harcèlement sexuel dans les médias.
Cela suppose que vous avez mené des enquêtes pour aboutir aux conclusions selon lesquelles les faits sont avérés.
Alors, vous avez compris que cette dénonciation faite par les femmes des médias, ces deux femmes-là d'ailleurs, ont été suivies de nombreux autres témoignages ayant trait aux mêmes pratiques.
Donc, elles ont réussi à créer cette sorte de MeToo dont on parlait, à pousser les autres femmes à délier leur langue. Vous avez eu combien de témoignages à peu près depuis que ces deux consoeurs ont parlé?
Non, il n'y a pas de statistiques en la matière, mais nous avons un élément qui nous a permis de réagir parce que en mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons organisé une causerie débat entre les femmes des médias sur le leadership féminin dans les médias. Et à l'occasion, il y avait des panels de discussion et l'une des thématiques, c'était la sécurité au travail. Et les femmes dans ce panel-là nous ont exposé des situations inimaginables, celles dont l'habitude de vivre,
exemple,
dans des organes de fête, notamment le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Mais aucune de ces femmes n'était prête vraiment à engager une procédure pour qu'on aille jusqu'au bout. Parce qu'il faut déjà que l'Union, le syndicat, soit saisi officiellement pour qu'on puisse agir.
C'est-à-dire que vous dites, Zakiatou, que les femmes, le phénomène existe, mais les femmes ont peur de témoigner, peut-être par crainte de perdre leur travail aussi, parce qu'il y a des contraintes culturelles, des réalités culturelles qui fassent que ce sujet gêne un peu même les victimes présumées.
Exactement. Les femmes sont gênées. Les femmes sont vraiment gênées. Et vous voyez, il y a aussi un rapport de force. Moi, je suis l'employée, je suis victime de harcèlement, mais comment je fais pour dénoncer? Je dénonce à quel niveau? Et si c'est en entreprise, si c'est le patron, si c'est l'auteur même, je ne dis pas que ce sont les patrons, mais si c'est le patron, je me plains à qui dans l'entreprise?
Et on sait aussi que dans les médias africains, la plupart des patrons sont des hommes. Merci beaucoup, Zakiatou. On va écouter le confrère du Mali, Brahim, sur cette question. Est-ce que c'est un problème qui revient dans les médias maliens? Avez-vous déjà entendu des femmes se plaindre du harcèlement, du viol, de pression morale ou toutes sortes d'humiliations?
Non, pas de façon officielle. Hein. Au Mali, officiellement, je n'en ai pas entendu. Longtemps responsable d'organisation professionnelle des médias, je n'ai jamais entendu de façon officielle de telles plaintes venant des femmes journalistes. Mais le constat quand même est là, souvent, vous savez, comme dans tout milieu de travail, quand il y a les hommes et les femmes, ce genre de phénomène ne peut pas manquer. Parce qu'au Mali, quand même, on constate souvent qu'on a eu quelques cas où des directeurs de publication sortent avec des journalistes qui travaillent dans leurs organes ou des directeurs en chef qui sortent avec des femmes journalistes. Souvent même, il y a eu des couples de journalistes, en tout cas, des journalistes qui ont marié leurs collègues. Donc, on a eu tous ces cas, mais dire que, bon, officiellement, il y a eu des plaintes comme quoi il y a des cas de harcèlement ou il y a des cas de viol. Vraiment,
est-ce que vous pensez, comme Zakiatou, qu'il y a une sorte de crainte, de gêne de la part des femmes à parler de ces questions, de peur aussi de perdre leur travail?
Certainement, certainement, parce que ce milieu, il faut le reconnaître que, vu la précarité dans ce milieu-là, surtout ce qui concerne la presse privée, donc vu la précarité dans ce milieu, moi je pense que, même si le cas existait, donc, puis vu les pesanteurs socioculturels, donc les femmes ont de la peine quand même à mettre ça sur la table de façon publique pour dire que, bon, je subis ça, je subis ça. Mais bon,
mais est-ce que vous encouragez les femmes journalistes à dénoncer les hommes qui se livraient à de tels actes? Quel est votre...
Oui. Oui.
Puisque
oui,
vous êtes directeur de publication, si votre journaliste arrive et vous dit « je suis harcelé par tel collègue ou bien mon supérieur », alors qu'est-ce que vous lui conseillez?
Moi, je pense que pour assainir le milieu du travail, ce genre de pratiques doivent cesser. Quand une femme est journaliste,
elle a le droit tout aussi que des hommes.
Elle a le droit de se plaindre. Elle a le droit de se plaindre. Moi, je pense
d'être respectée pour son travail.
Il faut rompre le tabou. Donc, de plus en plus, moi, je pense que pour ce genre de questions, les femmes doivent parler. Il faut que les langues se délient pour dénoncer la pratique, parce que c'est des pratiques qui détruisent le milieu de travail.
Merci.
Donc, ça joue même sur, en tout cas, l'ambiance, le climat de travail, la performance.
Et peut-être aussi les résultats même.
Oui, les résultats. Donc, moi, je pense que c'est une bonne pratique de les dénoncer.
Merci, Ibrahim. Monsieur le ministre, alors, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a été un journaliste présentateur, puis directeur de chaîne, et aujourd'hui ministre de la Communication. Ces accusations de harcèlement sont-ils souvent revenues dans la chaîne où vous travaillez? Vous avez été journaliste, puis patron, et maintenant aussi que vous êtes ministre de la Communication, monsieur Dandjinou?
Non, je pense que comme dans tous les cas de travail, ce risque existe. C'est pour ça qu'il faut saluer le courage des journalistes béninoises qui l'ont affirmé. La question essentielle, c'est justement rendre droit à ces femmes-là, afin justement que par l'exemplarité, d'autres acteurs ne tombent pas dans ces travers-là. J'ai été journaliste, je suis passé du bas de la chaîne à haut de la chaîne, et de temps en temps, effectivement, on a ces histoires de pression, de tension, on a ces collègues qui se plaignent, mais c'est important, effectivement, que le cadre soit rompu et que, justement, cela soit porté au devant de la scène.
Et c'est pour ça que comment vous arbitriez ce genre de situation? Qu'est-ce que vous faisiez lorsque des cas de harcèlement de femmes?
Je n'ai pas eu directement à gérer ces situations. J'ai été un produit de la radio nationale, je suis allé ensuite dans les acteurs privés, mais je n'ai pas géré de situation directement dans ce cas-là. Mais c'est pour ça que je voudrais dire qu'il faut saluer donc le fait que le président du Bénin ait reçu une de ces journalistes-là, afin justement que nous acceptions de poser cette problématique-là. De toute façon, au Burkina, nous avons une culture tellement forte de lutte et de démocratie. Nous avons aujourd'hui des journalistes qui sont très engagés dans les médias, qui sont très visibles, et je suis convaincu que si jamais cela se passait, il y a des chances qu'elles soient...
Mais monsieur, vous voulez dire que si aucune journaliste à la télévision publique ou d'ailleurs ne s'est pas plainte, c'est que le phénomène n'existe pas?
Non, ce n'est pas pour autant que je dirais que le phénomène n'existe pas. Parce que comme ont dit mes deux confrères du Mali, et du Bénin, il y a quand même des pesanteurs sociales qui sont assez fortes. Et même dans le monde occidental, il a fallu tout un temps pour que cela puisse transparaître. Donc, c'est pour ça que je salue vraiment le courage de ces dames-là. Et puis, il faut leur rendre justice justement sur ce fait-là, afin que cela serve dans l'exemplarité et que tous les acteurs prennent la distance par rapport à ces actes, mais qui existent dans tous les cadres tout le cadre de travail, dans la presse, dans toutes les entreprises, il peut y avoir des brebis galeuses qui ont tendance à avoir ce genre de comportement-là. C'est vrai dans le monde de la presse, c'est vrai dans le monde bancaire, c'est vrai dans le monde des assurances, c'est vrai dans le monde du sport, c'est vrai dans tout espace où il y a cette possibilité justement que par le positionnement qu'on a hiérarchique, on puisse en abuser sur une personne que l'on estime être plus faible que soi.
Merci. On va terminer avec vous, Zaki Atou. Alors, que va-t-il se passer après ces dénonciations ou qu'est-ce qui devrait se passer?
Ce que nous, au sein de l'Union, ce que nous souhaitons surtout, c'est que les responsables des entreprises de presse concernées par ces dénonciations fassent appliquer des sanctions exemplaires aux auteurs de ces actes de harcèlement et aux sévices.
Déjà, il faut les identifier.
Oui, c'est pour
les personnes n'ayant pas désigné de nom, il faut les identifier.
Il y en a qui nous ont dit qu'elles ont des preuves. Et donc, nous faisons le plaidoyer pour que la justice mène des investigations idoines.
Donc, vous pensez, par exemple, que le procureur devait s'autosaisir de cette affaire, par exemple, mener les enquêtes pour que les responsabilités et les personnes incriminées soient désignées et punies?
C'est tout ce que nous on souhaite. Parce qu'au moins, si on en arrive là, ça va servir d'exemple pour tous les autres, parce que ce seul cas ne permettra pas de punir les auteurs de ce genre de comportement qui en rien ne facilite l'épanouissement de la femme dans son entreprise de presse. Et au-delà de cela, nous avons pensé qu'il est important que nous mettions en place, en tout cas dans les tout prochains jours, une cellule d'aide et d'assistance juridique aux professionnels des médias victimes de tout type d'abus sexuels, judiciaires ou attraits devant la justice dans l'exercice de leur profession. Ainsi, nous aurons contribué véritablement à accompagner toutes celles qui sont dans un mutisme à avoir le cadre approprié pour s'extérioriser et la cellule pourra les accompagner.
Zakiatou, vraiment en 30 secondes, je ne voudrais même pas me faire lyncher, mais je voudrais quand même demander, on a aussi vu des cas où ce sont les femmes elles-mêmes qui font des avances, qui proposent des services, je ne veux pas dire pas catholiques, mais des services aux supérieurs pour, en échange de certaines promotions. Est-ce que ce sont des cas aussi dont vous comptez vous en saisir?
Mais, écoutez, moi je pense que dans l'un ou l'autre des cas, la femme peut être amenée à faire des avances. L'homme aussi peut faire des avances. L'essentiel ici, c'est de rechercher le consentement. S'il y a consentement, il n'y a pas de problème. Là, tu peux y aller sans problème. Mais c'est quand il n'y a pas consentement.
Et oui, s'il y a que le harcèlement sexuel devient un moyen de pression. Voilà.
Que l'harcèlement devient un point de pression. Et à partir de ce moment, je pense que si c'est l'homme qui est en faute, il doit être puni. Et si c'est la femme, qu'elle soit punie aussi.
Merci beaucoup, Zaki Atou. Et sans transition, on va passer au dernier sujet, le Mali. Certaines décisions de la Cour constitutionnelle sur les dernières élections législatives sont fortement contestées. Ils ont provoqué même des vives tensions dans plusieurs localités comme Sikasso, Yanfola, Mopti, Nioro ou encore la capitale Bamako. Une atmosphère tendue qui fait craindre une crise post-électorale majeure. Je commence avec vous, Ibrahim, qui est à Bamako. Alors, pour apaiser le climat, la plateforme de la COSEM, la plateforme des observateurs électoraux, a suggéré au ministère de l'administration territoriale de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que vous pensez que cette demande est réaliste et pourrait-elle suffire, si le ministère acceptait la proposition, de faire lever tous les soupçons de manipulation des résultats de ces législatives?
Moi, je pense que ce serait le médecin après la mort. Hein. De deux, ce serait contre-productif, parce que ça va donner l'effet contraire. De trois, moi, je pense que le ministère même de l'administration territoriale est incapable de faire de tels décomptes au Mali. Puisque pour qui connaît la situation socio-sécuritaire aujourd'hui au Mali, il y a des localités où il n'y a pas eu de vote.
Donc, mais il y a eu quand même des résultats.
Il y a eu des résultats.
Sur quelle base donc, alors?
Voilà. Donc, bon, maintenant, c'est ça. La base de soupçon, c'est l'affaire qui est à la base de tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans les différentes villes du pays. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'administration territoriale a donné des premiers résultats, lesquels devraient être confirmés ou infirmés par la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, on a vu qu'à l'espace de 10 jours, la Cour a dit une même chose et son contraire.
C'est ce que relève la COSEM d'ailleurs.
Oui, il y a des gens qui ont entendu leur nom sur la liste des députés, lu par la présidente de la Cour constitutionnelle, une juridiction aussi importante comme la Cour constitutionnelle, et après dire que non, c'était des erreurs, ils ne sont pas élus députés. Donc moi, je pense qu'au Mali, aujourd'hui, nous vivons une situation indescriptible, c'est-à-dire une situation qui se passe de tout.
Et vous avez peur d'une crise post-électorale plus accentuée?
On est déjà dans cette crise post-électorale, parce que imaginez, désormais, c'est toutes les nuits que les gens sont dans les rues. Même hier soir, à Bamako, dans d'autres villes, les gens étaient dans les rues. On brûle des pneus, on fait des barricades. Donc,
mais si, Abdoullah, excusez-moi Ibrahim, si la commission électorale ou le ministère de l'administration territoriale n'est pas en mesure, comme vous le dites, de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, comme le suggère la COSEM, qu'est-ce qui peut donc arrêter la tension? Comment apaiser le climat?
Vous savez, madame, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les décisions de la Cour constitutionnelle sont, comment dirais-je, ne sont pas susceptibles de recours. Donc la Cour a déjà donné, en tout cas, son verdict. Donc un décompte de l'administration territoriale n'a pas de sens. Parce qu'un décompte de l'administration territoriale ne peut plus changer ce que la Cour a eu à dire. C'est la Cour elle-même.
Puisque ça essaie des résultats définitifs.
En tout cas, sur la base de ses propres erreurs, en tout cas, c'est dédire. Sinon, un décompte au niveau... Ça, c'est un de deux. Ces observateurs-là, qu'est-ce qu'ils ont... Ils avaient à attendre jusqu'à ce que la Cour arrive à ces deux pour ensuite venir proposer à ce que l'administration territoriale revienne sur les décomptes. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui... Pour calmer la situation au Mali, moi je pense que les plus hautes autorités doivent communiquer. Communiquer, beaucoup communiquer et beaucoup sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, on a de la peine à convaincre les gens. Parce que tout le monde a vu que manifestement, il y a erreur quelque part, ou pour ne pas dire tricherie ou vol ou fraude, manifestement, il y a erreur quelque part. Et l'erreur est visible.
Merci beaucoup. On va donner une minute à Zakiatou, puis notre invité va conclure, puisque c'est le grand témoin. Zakiatou, sur cette crise post-électorale au Mali.
Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la crise puisse être le plus tôt possible maîtrisée, cette crise électorale, parce que vous savez très bien, hein, quand on commence après les élections, surtout en Afrique, on sait seulement quand ça commence, jusqu'où ça peut aller, on ne sait plus du tout. Donc on ne peut qu'espérer vraiment que le dialogue règne et qu'il y ait un apaisement total au niveau de la population et que les choses reprennent normalement leur cours.
Monsieur le ministre Dandinou, d'où viendra la paix? Qui aujourd'hui, pour ramener la paix, Ibrahim disait qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle, étant donné que les résultats sont définitifs, pour revenir sur ce qu'elle-même elle a proclamé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette Cour n'a pas perdu toute crédibilité et même sa neutralité?
Je pense que je peux difficilement opiner sur ce qui se passe au Mali. Ce qui est certain, c'est que dans un processus comme celui-là, il faut arriver à ce que les Maliens, ensemble, trouvent une solution. Parce qu'effectivement, les conflits post-électoraux ne sont pas les choses qu'on partageait avec dans nos pays. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un consensus au départ du processus, qu'il y ait un consensus pendant la tenue du processus, et ça nous garantit ensuite une acceptation des résultats par les acteurs. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cas du Burkina, il y a eu un dialogue politique il y a quelques mois de cela. Au fort de la question du coronavirus, le président du FASO a reconstruit le dialogue pour que les acteurs politiques soient d'accord sur ce qu'ils veulent faire.
Excusez-moi, monsieur, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le processus, mais c'est le résultat. Ce sont les résultats communiqués par la Cour constitutionnelle qui, en certaines localités, sont contradictoires. d'après la COSEM.
Ce que je veux dire, c'est que vous ne soignez pas quelque chose à la fin si vous ne trouvez pas un moyen d'être tous d'accord sur comment ça fonctionne et comment on en sort. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est aux Maliens de trouver les ressorts nécessaires dans leur pratique de la discussion, dans leur pratique de la négociation, dans les opportunités qu'offrent toutes leurs institutions pour justement réguler cette question. C'est au Mali de trouver la solution, c'est aux acteurs maliens de trouver les éléments de, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour que ce conflit, cette situation post-électorale ne devienne pas un conflit beaucoup plus important.
Dans un Mali déjà confronté à diverses d'autres crises, notamment sécuritaires et bien sûr aussi le Covid-19. Nous allons à présent écouter les réactions des auditeurs laissées sur la page Facebook de l'émission avec Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina Ala Kerim Lamana pense que l'assouplissement des mesures restrictives pour lutter contre le coronavirus est inopportun. Pour lui, c'est assez risqué de lever les mesures alors que le virus se propage toujours. De son côté, Sidibé Ibrahim Khalil affirme que la mauvaise communication et le flou gouvernemental autour de la gestion de la crise ne fera qu'empirer la situation. Bénin Didier Dossa estime que les femmes journalistes sont très exposées au phénomène de harcèlement en milieu professionnel et que seuls les gouvernants pourraient y remédier en prenant des mesures drastiques pour protéger ces dames. Archiduc Théodore de N'Djamena lui estime que pour réduire le taux de harcèlement dans l'administration, il faut sanctionner durement les auteurs et leurs complices. Merci à Ifra Si qui nous a rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/debatbbcafrica-africaradio et sur Twitter à @debatbbcafrica. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Et bon week-end également à vous, Didier Ladislas Lando. Monsieur le ministre, une minute pour conclure et vous êtes visé puisque un auditeur estime que la mauvaise communication et le flou dans la communication gouvernementale n'aident pas à mieux gérer cette crise autour du Covid-19.
Il y a eu des adaptations nécessaires sur une pandémie qui est assez évolutive dans le monde entier. Après, il y a eu tout le travail d'Infox sur les réseaux sociaux et nos populations sont extrêmement sensibles aux réseaux sociaux. Donc à nous de trouver les éléments, mais si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas une communication claire, elle est très claire, elle est lisible, elle est posée. Le plus important pour nous aujourd'hui, pour le Burkina, c'est que nous puissions aller vers une levée partielle de ces mesures-là, vers une reprise des activités, tout en garantissant le niveau de sécurité sanitaire que nous avons commencé à mettre en œuvre. Il y a des résultats extraordinaires qui ont été obtenus. Il faut que nous engageons ces résultats-là afin justement que dans cette reprise-là des activités, il n'y ait pas de rebond. Je pense que pour le reste, les acteurs notamment peuvent ne pas être satisfaits. Ils parlent certainement de cette question de la vipiride qui a été une question relativement polémique au Burkina Faso. Et nous sommes également du décès de l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Mme Rose Totiardé Compaoré. Donc c'est les deux situations un peu délicates qui sont intervenues, sur lesquelles, comme a dit le gouvernement, il y a nécessité donc d'avoir des éclaircissements. Merci. Afin que tous les acteurs soient situés.
Merci beaucoup Rémi Fulgence Ndadjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement burkinabé, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune au Mali, et à vous Zakiatou Latundi, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Réalisation Abdou Diop, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez écouter, partager aussi l'émission sur bbcafrique.com et africaradio.com et nous venez nous dire quels sont vos avis, vos commentaires sur la page Facebook Le Débat BBC Afrique-Africa Radio. À la semaine prochaine et promis, je vous ramènerai Francis Laloupo que vous réclamez à travers la page Facebook de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, bon week-end et portez-vous bien.
55 minutes pour comprendre l'Afrique et ses changements vus d'ici et de là-bas.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Deux journalistes passent en revue les événements de la semaine avec un invité au cœur de l'actualité. Tous les samedis à 10h02, temps universel. Rediffusion le dimanche à la même heure.